En cette release de CPU, une nouvelle techno formidable, des astuces génialement simples, une démonstration de folie, et le tout sous vos applaudissements. L'équipe aujourd'hui est composée de Daskritch. Nous interviewons David Rousset, évangéliste logiciel chez Microsoft. Et j'espère que tout le monde a mis sa petite démo sur silencieux. Soyez gentils, je ne peux plus avoir de voix sinon. C'est parti! Bonjour David Rousset.
Salut, merci.
Merci de nous rejoindre par satellite.
Satellite, non, quand même pas.
Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui viens de découvrir avec plein d'étoiles dans les yeux comment bricoler cette nouvelle technologie fabuleuse pour faire des effets de fou. Et tout ça parce que tu as croisé quelqu'un qui t'a montré avec enthousiasme comment faire. Bon, on va pas se mentir, la techno en question, t'as bien vu le site, lu quelques billets de blog, téléchargé des exemples et malgré tout, t'arrives à rien. Mais il a fallu que quelqu'un arrive et te montre avec passion ce que tu peux en faire pour que tu y arrives. Et j'ai comme l'impression que le t-shirt qui t'a laissé t'a beaucoup aidé à maîtriser l'API. À vous. Alors, que fait un évangéliste logiciel ? Non, ce n'est pas la personne religieuse en charge du lieu cultuel multireligieux, mais néanmoins monothéiste de ton collège laïque. Un évangéliste logiciel est plutôt l'animateur de quartier qui intervient dans ta classe à la demande de ton professeur principal afin de te faire découvrir les merveilles d'une nouvelle technologie comme la peinture à l'huile ou l'occitan. En fait, l'évangéliste technologique ressemble plus à une espèce de magicien qui en 30 minutes te démontre une technologie incroyable pour faire quelque chose, mais en plus rapide, mieux et bien plus lisible à la relecture. Et te retourner boyau de la tête en t'ouvrant un nouveau monde. Et son métier est ingrat. L'évangéliste logiciel va dans la brousse rencontrer les sauvages qui travaillent encore en COBOL, Fortran et WinDev pour leur montrer le monde merveilleux du monde moderne actuel. Il leur laisse quelques breloques en verroterie autocollante à poser au dos de son laptop contre la promesse que ledit sauvage va se civiliser grâce au progrès moderne apporté par sa Bible, par son nouveau testament. En soit, un évangéliste logiciel ressemble un peu à un visiteur médical, celui qui va voir ton médecin pour lui présenter les récentes découvertes du laboratoire pharmaceutique qu'il emploie. Oui, docteur, notre nouveau dosage, encore plus dilué de notre préparation homéopathique star, est capable de guérir du sida, selon nos études que nous avons menées au sein de notre labo.
Bof.
Si vous en prescrivez 500 cures, nous vous offrons 15 jours de vacances aux Caraïbes.
Oh bah oui, expliqué comme ça, forcément, c'est beaucoup plus convaincant.
Car oui, les évangélistes logiciels pourraient aussi être des camelots de foire. Elle est belle, ma techno, elle est belle, elle vient tout droit de la capitale, elle est toute fraîche et pour deux technos emportés de suite, je vous offre la troisième en prime avec son sticker. Allez vite, prenez-la avant votre voisin, l'essayer, c'est l'adopter. Car l'ambiance est nettement plus gouillardeuse qu'une messe qui est dite.
Au nom de la norme NF, des standards I3E et ISO et du W3C tout puissant.
Mais le chemin est très long jusqu'à déjà faire maîtriser la technologie. Et rien ne vaut le chant du monastère bénédictin les dimanches matins de Hackathon.
Les tests sont ouverts. Alléluia.
Enfant du futur immédiat, si tu vas ou que tu suis certaines conférences techniques, il n'est pas rare de voir passer des évangélistes logiciels. Et au-delà des performances techniques qu'ils sont capables de reproduire sur scène sous les feux de la rampe, il y a aussi cette capacité de persuasion, cette passion flamboyante qu'il y a en eux, et qui va tous nous convertir. We'll be right back.
Luther était le roi, Dominique notre père combattit les albigeois, les chameaux des diligences, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté.
Dominique, 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 s'en allait tout simplement, pour Dieu, pour les chanteurs, pour tout jeune homme de Dieu.
Sont pleins d'ardeur et pour semer la parole inventa les frères prêcheurs chez Dominique et ses frères. Le pain s'en vint à manquer et deux anges se présentèrent portant de grands peines d'oreilles. Dominique, mon bon père, garde-nous simples et gays pour annoncer à nos frères la vie et la vérité.
Repris par le groupe Odeur, d'après la version de Sœur Sourire qu'on a entendue dans American Horror Story saison 2. Ah oui, tout d'un coup, c'est nettement plus glauque. Il est capable de monter sous les huées sur la grande scène de Paris Web, d'y coder en 5 minutes live, top chrono, un Tetris en CSS ou un casse-brique pour aveugle, et d'en ressortir sous des applaudissements nourris. Notre invité a ce calme olympien du sportif qui va casser la baraque et les records mondiaux dans le stade. Pour parler d'évangélisme logiciel, nous avons l'honneur de recevoir le showman David Rousset, Senior Program Manager Developer Evangelist chez Microsoft, co-créateur de Babylon.js, moteur de rendu 3D open source dans les navigateurs web, passionné des standards ouverts, ouais, chez Microsoft, américain installé en France, ce qui en fait une contradiction de plus, homonyme d'un célèbre résistant déporté. Et d'ailleurs, je vous enjoins à lire la bio de l'homonyme.
CPU, carré, petit, utile.
Quel honneur et quelle intro.
Merci. David, quand on est évangéliste logiciel, soit c'est une organisation du logiciel libre pour promouvoir les standards, soit c'est une société aux logiciels proprio et cadenassés pour promouvoir leur technologie qui n'est portée nulle part. Et la surprise, en 2013, fut que vous nous avez démontré que Microsoft pouvait pousser les standards. Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est vrai, c'est vrai. Bah, on était un peu précurseurs à l'époque, parce qu'on était quand même convaincus de l'intérêt de le faire pour l'entreprise, et puis aussi parce qu'on est des... convaincu des standards. Moi, je suis tombé dans Paris Web, comme tu le disais, excuse-moi, il y a quelques années, et ça m'a quand même changé aussi d'être au contact des gens qui faisaient le web et des standards du web. Et j'ai voulu aussi être le porte-étendard de la parole de Microsoft, parce que malgré...
Oui, vous étiez précurseur chez Microsoft, il faut le préciser.
Chez Microsoft, ouais. malgré le passif, on va dire, de Microsoft sur le web, qui est connu, bon, on va pas réécrire l'histoire parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons pour lesquelles on était arrivé là. Je me suis dit, il faudrait rappeler quand même que Microsoft siège aussi au W3C, hein, et participe également au standard, et ensuite faire aussi un mea culpa auprès des gens pour qu'on repète partir de bonnes bases. Et c'était à une époque aussi où il y avait une organisation chez Microsoft qui s'occupait des standards du web, qui était Microsoft OpenTech. Et c'était avant que Satya arrive et que l'open source soit vraiment bien vu et complètement faisant partie de la stratégie de Microsoft. Donc on a des fois quelques bâtons dans les roues en interne, mais vu le succès qu'on a eu ensuite en faisant les ozos, je pense que nos chefs ont vu l'intérêt de nous laisser faire ça.
Mmh. Oui, il faut préciser que maintenant Steve Ballmer est guéri du cancer communiste. comme tu interviens surtout dans les standards du web édictés par le W3C, tu as dû en entendre parler justement de la normalisation OpenXML, le format du document XML des suites Office de Microsoft, Extended Endpoints. Ça devait être difficile quand même.
C'était une période où c'était assez tendu chez nous. Peu de gens avaient le droit vraiment de participer aux discussions parce que c'était vraiment politique et sensible. C'est des discussions. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce genre de soucis chez Microsoft. Il reste des parties de Microsoft qui sont fermées et avec des gens qui n'ont pas la même culture que l'open source. Hein. C'est quand même une énorme entreprise Microsoft. Mais à l'époque, c'était vraiment la majorité des gens qui étaient contre les standards. Et donc c'était uniquement certaines personnes triées sur le volet qui pouvaient en parler, effectivement.
Alors, à la base, pour ton métier, tu interviens sur deux plateaux à peu près, celui des conférences techniques et les interventions dans les entreprises et les écoles. Est-ce que j'oublie beaucoup de choses ?
Non, pas forcément. C'est principalement ça. C'est les clients, les étudiants, les entreprises en petit comité, on va dire. C'est aussi en interne. J'évangélise en interne parce que tu parlais des standards, par exemple, ou de Babylone, ou de ce qu'on faisait sur WebGL. On évangélise aussi en interne en faisant des workshops, en participant à des formations internes pour montrer aux gens ce qu'il est capable de faire avec le navigateur et aussi changer leur perception. Parce que des fois, il y a des mecs qui sont convaincus, par exemple, que IE, c'était le meilleur navigateur à un moment donné chez nous. Donc, il fallait quand même faire leur ouvrir les yeux, tu vois.
Oula. Est-ce que quand on crée un poste d'évangélisation logicielle, est-ce que c'est en général pour construire une communauté, pour lever des fonds ou pour vendre une techno ?
Alors, dans mon cas, c'est pas du tout l'évangile. Il existe des évangélistes, effectivement, qui parlent aux investisseurs, ce genre de choses. Moi, c'est pas du tout mon type de rôle. Moi, c'était évangéliste technique, donc c'était vraiment pour effectivement engager une communauté. Donc, au début, quand je suis arrivé en tant qu'évangéliste, je m'occupais de Silverlight, d'ASP.NET, de SharePoint. En fait, c'était sur la communauté, on va dire, vraiment pro-Microsoft, historique Microsoft, avec la stack Microsoft. Donc là, le rôle consiste effectivement à garder la connexion avec ces gens-là et faire la relation avec le groupe produit. C'est-à-dire, bah voilà, les gens sont pas contents parce qu'on a fait telle connerie, ou inversement, ils sont super contents de telle feature, sachez-le. Par contre, pour c'était l'autre partie, c'était quoi ? C'était lever des fonds, la communauté ou
vendre une techno, tout simplement.
Oui, ensuite, c'est vu, des fois, on m'expliquait le rôle en interne comme étant de l'avant-avant-vente, en fait. Si tu veux, dans une mission commerciale, tu as le commercial qui vient en général avec un ingénieur avant-vente, donc qui va faire son boulot pour essayer de te convaincre que sa camelote, c'est la meilleure camelote. Mais c'est pendant un rendez-vous client. C'est déjà que le client est déjà a priori intéressé par la technologie. Dans le cas d'un évangéliste, il va plutôt aller au contact des gens, en fait, dans des conférences et essayer, finalement des climats des fois qui sont peut-être parfois hostiles, comme tu le disais, de juste leur ouvrir l'esprit sur sachez qu'il existe telle technologie de tel éditeur ou même de l'open source et que vous pouvez peut-être éventuellement la considérer pour un prochain projet. Donc c'est essayer d'influencer un petit peu la connaissance des gens et l'envie de s'intéresser à une technologie. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de l'avant-avant-vente, parce que c'est assez difficile de mesurer l'impact que tu as après.
Et comment cela fonctionne en amont ? Est-ce que tu décides de la technologie que tu vas pousser ou il y a quelqu'un au-dessus de toi qui t'impose le sujet ?
Alors, fut un temps, effectivement, on devait s'occuper de toute la plateforme de dev Microsoft. Donc, c'était imposé de facto parce que les équipes produits faisaient, en fait. Lorsqu'on a fait le virage autour de HTML5, moi, j'ai voulu vraiment me positionner là-dessus. Donc j'étais un peu force de proposition. Je voulais vraiment aller au contact de la communauté en expliquant que ça aurait un intérêt vraiment pour Microsoft. Et puis moi, que je me permettrais de vraiment bien comprendre cette communauté-là. Donc je l'ai en partie influencé, mais souvent, la plupart du temps, on te demande d'évangéliser un groupe de techno. Et ensuite, bien sûr, ça t'arrive d'avoir le choix. C'est-à-dire qu'on dit, il y a deux postes d'évangéliste. Un, c'est C++ pour faire des drivers et l'autre, c'est faire du HTML5 JavaScript. Tu réponds en fonction de ton passé et tes affinités.
Ça, je veux bien croire. Alors, donc, OK, on pousse les technos maison ou soutenus par la maison, mais que fait-on des technos qu'on a poussés lourdement et qui sont abandonnés par la boîte mère?
Comme Silverlight, par exemple, regarde.
Oui, je crois que c'est mort, effectivement.
C'est un exercice assez difficile parce que on essaye de pousser des technos, des fois, dans lesquels on croit vraiment. J'ai eu la chance, la plupart des technos dans lesquels j'étais évangéliste, j'y croyais vraiment, et des fois elles n'ont pas fonctionné. Et comme on est plutôt bon souvent, c'est pour ça qu'on nous embauche, pour essayer de convaincre les gens d'aller dans une direction, mais qu'on n'est pas non plus des Jedi ou des voyants, ça arrive que le marché, deux ans après, pour diverses raisons, on change de direction. Là où ça dépend des entreprises, là où Microsoft n'est pas toujours très bon, je dois avouer, c'est l'accompagnement de genre de dire mea culpa, on allait dans cette direction, ça n'a pas fonctionné, vous nous avez suivis. Mais tu vois, je pense que c'est important aussi, comme travail d'évangélisation, de gérer sa fameuse communauté, à un moment donné, de dire aux gens, voilà maintenant la nouvelle direction, et on va essayer de vous accompagner pour aller dans cette direction, pour migrer certains de vos projets. Donc quand c'est des gens assez agiles, ça ne pose pas de problème. Quand c'est des gens en entreprise qui l'ont implémenté avec des cycles de développement qu'on sait plus longs dans les grosses boîtes, ouais, ça m'arrivait de me faire lyncher, c'est-à-dire qu'on m'a reconvoqué... par exemple, des grands groupes que j'avais convertis à Silverlight et me reconvoquer sur HTML5 en disant « Monsieur Rousset, c'est inadmissible, qu'est-ce qui se passe ?» Sachant que moi, j'y suis pour rien dans l'absolu, ouais. C'est la stratégie de l'entreprise, mais je suis représentant de cette entreprise. Donc, j'y allais, je passais un mauvais quart d'heure et ensuite, j'expliquais que de toute façon, il fallait aller dans cette nouvelle direction et que HTML5, c'était l'avenir. Et ce coup-ci, heureusement, je ne m'étais pas planté.
Ouais, total respect à Christophe Castaner. Google est très connu, justement, par exemple, pour avoir créé plein de technos et de continuer à les pousser publiquement alors qu'elles sont abandonnées en interne. Je pense à Dart, ils sont passés à TypeScript, Angular, qu'ils ont abandonné depuis pas mal de temps. Est-ce que c'est pour ne pas effrayer, finalement, sur l'adoption des nouvelles technos?
Je sais pas, c'est des stratégies de com aussi parce que on sait nous souvent quand on a des projets open source comme ça qui sont alors mort, c'est un bien grand mot parce que c'est aussi notre communauté des fois qui panique toute seule. C'est que le rôle d'un évangéliste ou des shows marketing qu'on fait, c'est de mettre en avant les toutes dernières techno ou voir l'avenir dont on rêverait qu'on aimerait atteindre quoi. Ça veut pas dire pour autant que la techno actuelle ou celle juste avant elle est morte, c'est qu'on sait qu'elles ont une inertie vachement plus grande. Typiquement, tu parles d'Angular ou de Dart, ça marche certainement toujours très bien et la techno n'est pas arrêtée au sens où elle est toujours supportée par la plateforme. Il arrive qu'il y a des technos qui sont carrément dégagés de la plateforme, tu vois. Donc là, c'est plus problématique. Mais on a ce même problème-là. Par exemple, nous, on a des technos de présentation qui s'appellent WPF, qui lorsqu'on a fait un virage sur un autre type de XAML ou beaucoup de HTML5, nos développeurs WPF historiques, ils étaient en panique en disant ça fait deux versions que vous n'avez pas sorti de nouveaux trucs, c'est que c'est mort. Non, mais ton truc, ça marche. On avait atteint un niveau de maturité extrêmement important et l'innovation qu'on voulait faire, c'était devenu dans le navigateur, et le navigateur était très en retard sur des capacités d'affichage, par exemple, à ce qu'on pouvait faire en WPF. Donc, et ce qui est marrant, c'est qu'ils étaient... c'est super difficile comme exercice de toujours garder l'ensemble de ta communauté. C'est que tu vas draguer une nouvelle communauté, mais il ne faut pas que tu te mettes à dos l'ancienne ou tu stresses l'ancienne communauté en même temps. Il faut faire un grand écart permanent, en fait.
David, on marque une pause musicale. We'll be right back. Pierre-Henri et Michel Colombier, Psyché Rock, remixé par Ken Abyss dans son Metal Time Mix, extrait de l'album de remix Métamorphose, reprenant Messe pour le temps présent. Vous écoutez Radio FMR, c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous interviewons David Rousset, évangéliste logiciel chez Microsoft. Oui, tu peux te moquer de mon accent Microsoft.
Non, très très bien. T'inquiète pas, j'ai plein de soucis avec mon accent aux États-Unis.
Je suppose que tu dois avoir un calendrier, genre les conférences techniques immanquables, les conventions d'entreprise où ce qu'il faut absolument être à la sortie, les grands raouts et tout le reste.
Oui, exactement. J'ai, en fonction des technos, quelles vont être mes priorités de l'année. En ce moment, c'est très, par exemple, Progressive Web App, Electron, cross-platform. Je vais regarder ce qui se fait en France, en Europe et dans le monde, parce que moi, je bouge pas mal aussi, je suis pas mal en déplacement. Et je vais essayer soit d'aller aux conférences où j'ai vraiment envie de me former, d'apprendre, et networker aussi, parce que ça fait vraiment partie du boulot, soit essayer de proposer des conférences pour pouvoir aussi présenter ce que fait Microsoft, donc en proposant des sujets qui sont les plus intéressants possibles, tout en étant un petit peu dans l'univers Microsoft, forcément, sinon mes chefs ne me laisseraient pas y aller, quoi.
Ouais, ce serait un petit peu logique. Et du coup, tu as un budget limite sur les déplacements ?
Ça dépend des divisions dans lesquelles j'ai travaillé. On n'est globalement pas du tout embêté parce que notre rôle consiste à beaucoup bouger. Donc, j'ai jamais été embêté sur les budgets déplacement. Et c'est même plutôt bien pour les gens qui nous invitent parce que souvent, on a des conférences où ils payent forcément l'hôtel ou l'avion au speaker. Moi, je leur dis non, ne le payez pas. J'ai une entreprise qui n'a pas de problème d'argent. Et du coup, réaffecter ce budget que vous auriez dû utiliser pour moi à quelqu'un d'autre ou pour autre chose. Donc, c'est plutôt bien. Ensuite, sur les conférences, pour être honnête aussi, il y a beaucoup de demandes. C'est-à-dire plus tu développes finalement ta notoriété sur certains sujets, plus tu es sollicité aussi. Et ça arrive que cet agenda, il se fabrique un peu tout seul. Typiquement, j'ai déjà eu des demandes sur Babylon.js, par exemple, en juin 2019. Et c'est un peu difficile pour moi je dis, je suis dispo, mais je sais pas si j'aurais pas un truc, super prioritaire à ce moment-là. Donc, les gens, en fait, ils finissent par à te demander vraiment en avance pour être sûr de te loquer. C'est assez perturbant parce que tu es en partie content, tu vois, et un peu fier. Et en même temps, tu dis, donc, presque un an à l'avance, ça rigole pas, quoi.
Et des fois où tu arrives, où ça se passe mal, je sais pas, ambiance connotée, le truc là de terroriste, la Capitole du Libre, où tu claques la porte en hurlant, vous aurez des nouvelles de mon user agent, ce genre de choses.
Non, ça m'est heureusement jamais arrivé parce que déjà, je pense que c'est lié à mon état d'esprit, c'est que ça m'arrivait d'être déçu plutôt sur l'audience présente, sur le fait que c'était pas adapté ma présence, c'est-à-dire que j'ai pas eu d'impact, pas parce que soit parce que j'ai pas été bon, ça m'arrive de pas être bon bien sûr, soit parce que l'audience c'était pas vraiment, ça avait été mal qualifié par les organisateurs de la conférence, et donc du coup moi je me suis emmerdé, mais les gens sont emmerdés aussi, mais bon c'est pas très grave hein, sur le nombre de conférences que j'ai faites, ça arrive rarement. Ensuite non, les soucis que j'ai des fois c'est la surprise, c'est que moi tu sais j'aime beaucoup faire beaucoup de démos live parce que je trouve que c'est vivant, et puis c'est un peu un numéro casse-gueule où du coup les gens ils sont avec toi des fois, même s'ils sont pas forcément pour Microsoft, te voir un peu galérer, tu vois, ça fait partie du spectacle. Et je suis arrivé dans des énormes scènes très beaux. Je me souviens, c'était en Pologne, une fois j'avais été, énorme salle, sauf qu'il y avait un pupitre au milieu de la salle avec pas de prise VGA et pas de courant. et pas la possibilité de mettre une souris non plus. Et je dis, mais on fait comment ? Ah non, mais non, on pensait que vous alliez filer vos slides et puis avec une zapette. Je fais, ah non, mais ouais, mais moi je suis un dev, quoi. Faut que je montre des choses, tu vois, faut que je tape sur mon clavier, sinon je suis pas bien. Au bout d'un moment, quoi. Donc, là, à l'arrache, t'as un peu de stress parce que les mecs, ils essayent de tirer un câble à l'arrache, d'essayer de faire des trucs en projection sans fil qui marchent jamais. Enfin, mais voilà, ça fait partie du folklore aussi.
Ouais, ça m'est arrivé aussi des fois, justement, les projections, t'as pas les bonnes prises. Est-ce qu'il y a des métriques quand tu fais des interventions? Est-ce que c'est au nombre de développeurs ayant laissé un like sur ton LinkedIn ou sur le GitHub, d'étudiants indiquant une première expérience sur leur CV?
Alors, il y a eu des tentatives de métrique. En fait, fut un temps où il n'y avait aucune métrique. Et c'était l'époque de Steve Ballmer, tu vois, étonnamment. pas toujours cool sur certains trucs, mais en fait, il était intimement convaincu de l'intérêt des évangélistes, justement, et il voulait qu'on leur foute la paix. Ensuite, au bout d'un moment, bah, c'est une entreprise qui cote en bourse, faut rendre des comptes. On se dit, ah, les évangélistes, faut qu'ils arrêtent de faire les zozos, faut qu'on sache vraiment quel est l'impact. Donc, on a commencé à nous demander, bah, le trafic de nos blogs, ouais, le nombre de followers que tu peux avoir sur les réseaux sociaux, voir un petit peu comment ça se passe. Mais quand tu fais une conférence, par exemple, devant 100 personnes, ou jusqu'à 4000, tu vois, ça m'est arrivé de faire des conférences devant 4000 personnes, tu sais pas quel est ton vrai impact dans la salle. C'est super difficile. Tu essayes de mesurer un peu sur les réseaux sociaux, de voir les gens, ce qu'ils ont dit sur toi, mais c'est assez difficile. Ça nous est arrivé, du coup, comme tu disais, pour les étudiants, qu'on allait voir des étudiants et qu'on essayait de leur donner, par exemple, des passes Azure pour qu'ils testent Azure et qu'on regarde derrière bah, qui a vraiment utilisé son pass et qui t'a réussi vraiment à convaincre de l'utiliser, quoi. Donc oui, il y a quelques formes de métriques, mais c'est rarement très efficace hein, de mesurer réellement l'impact d'un évangéliste, parce que tu vois, par exemple, Paris Web, j'avais eu, quand j'y avais été, d'énormes retours, mais c'est surtout grâce à Daniel Glasman, à l'époque, qui avait fait un super mail à un big boss de chez Microsoft en disant « ce gars, il est top, faut que vous envoyiez plus de gars comme ça, etc. » Là, ça a eu vraiment de l'impact auprès de mes managers, plutôt que d'essayer de... Enfin, tu vois, c'est difficile de faire toi-même ton propre feedback de ce que ta perception que tu as fait sur place, parce que forcément, tu vas dire « oui, chef, j'ai super bien bossé ». Alors que lui, il veut du truc factuel le plus possible, quoi.
Est-ce qu'il y a une limite éthique dans ce que tu professes ou la manière dont tu le fais ?
Oui, alors moi, globalement, j'ai jamais vu de personne dans mon entourage en tant qu'évangéliste, parce qu'on est les gens qui étaient choisis par le premier chef qui m'avait recruté d'ailleurs, c'était tous des passionnés. Et en fait, on était chez Microsoft sans être des fans particuliers de Microsoft. On était fans du code depuis tout petit. Moi, j'avais commencé sous Unix, comme beaucoup de gens, faire du C++. Microsoft, j'ai découvert tardivement. Donc, on a l'éthique, c'était plutôt, on était des bons hackers, si tu veux. On n'était pas. Mais c'est à toi de le mettre ensuite dans ta façon de le faire. Personne ne va t'imposer quoi que ce soit, même si on a des formations internes, justement, et encore plus depuis Satya, justement, sur la diversité, l'inclusion, le handicap, puisque Satya est touché directement avec un de ses fils qui est handicapé. Donc, c'est des formations qu'on a en interne. Mais bon, si quelqu'un a envie de faire n'importe quoi sur scène le jour J, il peut le faire, mais ça arrive souvent qu'il est rattrapé par la patrouille et il y a eu des mecs qui ont été dégagés pour ce genre de problème.
Ah oui, forcément. D'un autre côté, il y a, pour démontrer une technologie, il y a des événements type hackathon, par exemple. Il y a eu beaucoup d'abus, quand même, il faut le reconnaître, sur ces 5 dernières années, et à tel point que maintenant l'expression c'est hackathon piège à con. Est-ce que tu penses qu'il y a un réel dévoiement sur le principe ou finalement
il y en a encore pour sauver le
game?
Il y en a quelques-uns encore qui sont intéressants, mais c'est devenu rare. C'est devenu un phénomène de mode que tous les bobos et marketeux, ils ont voulu mettre en place. Au début, c'était cool parce que c'était fait vraiment par des devs. On en avait fait il y a vraiment longtemps avec des copains devs. Et on se retrouvait comme à la bonne époque, on faisait des LAN parties et voilà, on codait, on s'entraidait, on faisait en même temps un peu de concours. Il y avait un petit peu d'argent à gagner pour motiver les gens. Mais voilà, mais c'est devenu une espèce d'usine, effectivement, où certaines grosses entreprises font des hackathons pour... dans l'espoir de choper du code gratos, mais la qualité du code produit pendant des hackathons, franchement, il est pas super, quoi. Donc,
c'est fait le week-end après la semaine de travail.
Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, c'est plutôt un moment où on est censé se retrouver entre devs par passion, et que ce qui surprend d'ailleurs les gens, hein, même mon entourage ou ma famille, ma mère, elle va pas comprendre pourquoi le week-end je vais continuer à coder dans un univers qui est proche de ma boîte. Mais c'est de temps en temps, c'était cool. À un moment donné, on en a fait tellement que tous là, on n'en pouvait plus de faire des hackathons. Ça devenait une espèce de punition, tu vois. Et c'est pas bon signe. Donc, je pense que l'intérêt du hackathon, c'était vraiment plus pour s'entraider et apprendre. C'était une espèce de formation et une espèce de concours un peu. Moi, en plus, j'avais fait un peu de démo scène. Ça me rappelait la bonne époque de la démo scène, tu vois.
Oui,
et
oui.
C'est devenu c'est devenu des trucs avec des gens qui étaient présents dans les hackathons. Tu dis, mais eux, ils ont rien à foutre ici, franchement. Je sais pas ce qu'ils foutent dans ce hackathon. Et c'est devenu politique parce que c'est devenu cool. Et les mecs, ils pensaient connaître les développeurs parce qu'en disant, ouais, on va faire un hackathon, comme ça, on aura des développeurs autour de l'IA et la blockchain décentralisée dans un univers ultra connecté avec tous les mots buzzword dedans. Et en fait, tu les identifies rapidement, les hackathons qui sont cons, hein, justement.
J'imagine. Dans ta position au sein de Microsoft, tu es rattaché à la division commerciale. Un développeur parmi les commerciaux, étonnant, non ? C'est...
Ouais, alors au début, effectivement, je faisais partie de la filiale française, qui est une, donc toutes les filiales sont des filiales commerciales, hein, puisqu'elles ne fabriquent pas du logiciel. Et donc, on était vus, nous, comme soit... Alors, on était mal vus par les développeurs purs de Corp, parce qu'on était vus comme des mecs qui ne savaient pas suffisamment bien développer pour développer, mais qui faisaient du coup des claquettes sur scène. On était vus par les marketeux comme une espèce de geek bizarre qu'on ne comprend pas, mais pas vraiment marketeux. Donc on disait, vous faites du marketing technique, mais si tu dis ça à un développeur, genre bah, je fais du marketing technique, bah, il va te cracher la figure, hein, il ne va pas avoir beaucoup de respect pour toi. Et donc les commerciaux, par exemple, ils ne comprenaient rien de ce qu'on faisait. L'avantage, c'est que pendant longtemps, comme ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait, ils ne comprenaient pas l'audience qu'on adressait, ils nous foutaient la paix en disant c'est apparemment, vous avez l'air d'avoir des points communs avec les gens que vous rencontrez et puis ça a l'air de leur plaire ce que vous faites. Donc, ils nous laissaient carte blanche. Il y a eu des tentatives de certains commerciaux, marketeux, de vouloir prendre le lead et nous dire voilà, c'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut faire. Mais on était un peu des têtes brûlées. Il faut être un peu tête brûlée aussi, un côté évangéliste, c'est-à-dire qu'il faut avoir des convictions fortes et avoir une grande gueule, quoi. Donc, on les envoyait gentiment chier, et puis, ou alors on faisait pas ce qu'ils nous disaient, et puis on s'en sortait. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ensuite, aujourd'hui, je suis un évangéliste rattaché au groupe produit désormais, et c'est de plus en plus ce qui se passe ces derniers temps, c'est que chez nous, comme à la concurrence d'ailleurs, les évangélistes sont plutôt rattachés maintenant au groupe produit, ce qui permet d'être vraiment proche de l'engineering, voire contribuer à l'engineering. Moi, je peux contribuer du code maintenant. Typiquement, Babylon, c'est une équipe à lui tout seul maintenant aux États-Unis. Je peux contribuer du code tout en ayant ce rôle de, on va dire, de conférencier, de partage de la connaissance avec les articles.
Pourquoi Microsoft paie un évangéliste technologique pour promouvoir une technologie qui ne contrôle pas et qui est exclusivement libre et gérée par le W3C, même si Microsoft en fait partie. Comment ils en sont venus à ça ?
Ça, c'est une bonne question, parce que beaucoup en interne même se posaient la question. Mais en fait, tout simplement que le W3C, des fois, est vu comme... par certains à tort comme un monde de bisounours, hein. Les standards du web, c'est cool, mais c'est loin d'être un monde de bisounours là-haut, hein. Malgré tout, il y a une espèce de bonne entente entre, on va dire, les purs ingénieurs. Il y a des passionnés qui créent les standards, mais il y a beaucoup de politiciens aussi au W3C. Et justement, comme il y a beaucoup de politique et d'influence, que Google va essayer de tirer la couverture vers lui... Bon, Mozilla est quand même plus neutre que les autres, mais ça lui arrive aussi de faire des trucs bizarres, hein, comme tout le monde. Apple, bon, c'est Apple.
Ça, c'est fait. Ouais.
Mais justement, tu as besoin à un moment donné, sur le terrain, de t'assurer que notre stratégie soit bien comprise, que de ne pas laisser, par exemple, que Google faire des conférences en parlant du web, parce que même s'ils ont un super navigateur, on les connaît, c'est une entreprise commerciale, ils vont forcément dévier un peu le message pour rattacher des technos à eux, des produits et changer la perception. Donc tu avais besoin d'évangélistes qui soient là pour être présents dans la communauté des développeurs web pour déjà dire qu'on existait, pour écouter ce qu'ils avaient à dire. Parce que pareil, si t'as personne qui est au contact des gens, les développeurs qui créent le produit, tu vois, enfin, tu en connais des devs, hein, ils veulent pas parler avec les gens qui vont utiliser leur produit, hein, ça va beaucoup, hein, donc il faut quand même quelqu'un qui soit plutôt bon là-dedans, et donc d'aller voir la communauté et que les mecs nous disent, vous avez fait n'importe quoi sur, je sais pas, CSS Grid, que vous avez foutu pour mettre autant de temps pour leur implémenter l'aspect final, et d'expliquer, parce que des fois, il y a des raisons toutes bêtes. Tu vois, c'est de dire, notre priorité, c'était ça, on bosse là-dessus sur l'OS, effectivement, là, on n'a pas des, même si on a une grosse boîte, on n'a pas un budget infini, et étonnamment. Donc ça, on a passé, on est passé devant. Mais si beaucoup de mecs se mettent à gueuler, eh ben moi, je vais dire, écoutez, ça fait la troisième conférence que deux mecs en plus qui sont importants nous disent qu'on a vraiment fait de la merde là-dessus. Bah c'est qu'on a vraiment dû faire de la merde là-dessus et que ce serait bien qu'on fasse quelque chose, quoi, tu vois, ou au moins qu'on fasse une communication. Donc c'est important d'être au contact, même si c'est effectivement des standards du web et on pourrait se dire, bah finalement, il n'y a pas besoin d'expliquer comment ça fonctionne. C'est pas du tout vrai. Et puis, je m'aperçois souvent qu'il y a des technos qui sont spécifiés, mais imbitables. Et donc, il faut en faire aussi des tutoriaux. Et forcément, bah, au moment où je fais un tutoriel, je vais rappeler aux gens que ce que je fais, ça marche aussi dans Edge. Et que je rappelle même aux gens, vous n'êtes pas au courant, mais il reste un navigateur chez Microsoft.
Oui, j'imagine. Enfin, quand même, quand tu fais des démos sur des technos pas encore dispo dans Edge avec, par exemple, Chrome ou Firefox, ça doit tousser un peu à ton retour. Moi, je me souviens quand même de d'une démo que tu avais faite. Bah, il y avait David Catu qui avait fait une démo sur WebGL. Tout n'était pas dispo sur Edge. Et toi, l'année suivante, avec le casse-brick pour sourds, tu l'avais faite sur Firefox parce qu'il manquait une partie de l'API.
Ouais, ou de Web Audio, ouais. Bah, en fait, oui, alors, il y en a certains, ils n'aiment pas mon approche. Hein, mais globalement, comme mon approche semble fonctionner auprès de l'audience que je vise et que j'ai pas mal de sponsors internes grâce à des succès précédents, grâce à Babylon, le Casbrick, etc. Ce que je leur dis, c'est OK, on n'a pas encore l'API Web Audio dans Edge, mais si vous bossez bien, vous implémentez le standard, ce que je vais faire dans Firefox, ça va marcher dans Edge. Donc en fait, je ne fais que préparer le terrain. Et en plus, effectivement, ça donne quand même une image plutôt cool de dire c'est du standard, les gars. Donc, c'est un site web. Là, je le lance dans Firefox, mais bien sûr, il va fonctionner dans Edge. Et si ça leur pose un problème, c'est qu'ils sont pas forcément bien sereins sur l'implémentation qu'ils vont faire. Donc, dans ces cas-là, faut qu'ils me le disent. Effectivement, je suis pas non plus complètement abruti. S'ils me disent David, tu vas faire une démo dans Firefox, on sait que ça marchera pas avant 2 ans parce que c'est pas dans la priorité. Ouais, là, je comprends que je peux les mettre en porte-à-faux et que c'est compliqué. Mais là, je savais que la spec, ça allait arriver, enfin, elle allait être implémentée d'ici quelques semaines. Donc, et j'avais vraiment envie de faire cette démo à Paris Web. Donc, j'avais pas envie d'être bloqué par Edge. Et d'ailleurs, ça nous arrive souvent, même avec Babylon, hein, de leur mettre la pression aux mecs de Edge. C'est que il y a des trucs qui tombent dans Chrome ou Firefox, genre WebGL 2 ou des trucs qui sont vraiment bien. Nous, en tant que framework, tu vois, open source avec notre communauté, c'est pas parce que c'est Microsoft qui le fait qu'on doit se limiter à ce que Edge supporte, parce que bah, du coup, bah, les gens ils vont peut-être aller voir FreeJS qui lui n'a pas de souci hein, puisqu'il est fait par, il est soutenu par Google. Donc on expliquait tout simplement aux gens de Edge, bah, nous on a besoin d'avancer. Ensuite on est dispo pour vous aider si jamais vous avez des questions sur cette spec que vous n'avez pas encore et l'utilisation éventuelle qu'on va avoir dans notre framework pour voir est-ce que ça vaut vraiment le coup de le mettre en priorité chez vous. Donc on a réussi quand même à avoir des bonnes relations tout en étant toujours un peu borderline effectivement.
On avait déjà parlé justement 2 fois dans cette émission de cette démo sur donc le casse-brick pour aveugles. J'aimerais te laisser la place pour que tu parles de ton blog « La face cachée du handicap ».
Alors, c'est mon blog perso. J'ai lancé il y a 4 ans maintenant, je crois. En fait, j'ai un enfant qui est lourdement handicapé, qu'on appelle polyhandicapé, qui est une maladie génétique et non diagnostiquée encore. Et j'avais envie d'en parler parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont cachés. Ça reste un peu tabou quand même, le handicap. C'est un blog qui me sert à la fois de thérapie et en même temps d'essayer de faire passer des messages relativement positifs, que la vie continue et qu'il y a des moments cool. Et donc, c'est aussi dans ce cadre-là, forcément, je suis sensible au handicap et à l'accessibilité, que j'avais développé ce casse-brick, même si mon fils n'est pas du tout aveugle, hein, il voit parfaitement. Enfin, il porte des lunettes, il est aussi bigleux que moi, mais ça, c'est un autre souci. Et c'était pour vraiment essayer de sensibiliser à la cause, parce que le handicap, c'est tellement vaste, donc peu importe la manière on s'y intéresse. Ce qui est important, c'est de s'y intéresser un petit peu. Et donc, comme j'étais plutôt bon en communication et à l'écrit, je me suis dit, je vais prendre la plume. Et j'ai eu des retours de gens. En fait, j'étais surpris parce que alors, les gens étaient surpris que j'avais cette villa à côté où je faisais effectivement le zozo sur scène, comme tu disais. Donc, les gens, ils disaient, oh, bah, il a l'air d'avoir une vie cool. Et à côté, bah, j'ai une vie qui n'est pas si simple que ça toujours. Mais leur expliquer, bah, c'est pas grave. C'était une forme d'énergie aussi, mon fils, pour aller sur scène. Et puis, c'était pour essayer de... ouais, de prendre la parole pour une communauté qui est pas toujours très forte pour la prendre. Il y a des gens, ils m'ont dit, ah bah, j'ai toujours rêvé d'écrire ça, mais je suis pas capable de le faire. Alors, je comprends pas forcément pourquoi ils sont pas capables de le faire, mais je leur fais confiance. Et du coup, ils sont contents que je publie pour eux, quoi. Faut que je reprenne d'ailleurs, ça fait un moment que j'y suis pas allé. J'ai prévu de faire des articles sympas, là.
Tant mieux. On fait une coupure musicale, on revient après ça. Standing on the corner building, seeing it there, looking at the corner street light, walking and waiting for my brother to come roaming in. Someone tapped me on my shoulder, 180 degrees I did, the five, oh my, what, oh, I didn't hesitate, so I ran and I ran and I ran and I ran and I tried to catch the cat, I wanted to stay on, I ducked into an abandoned building, I heard big heavy breathing on my back, I turned 180 degrees again and oh, oh, oh my god! Dash and I skipped into the BK lounge. I asked the lady if I could get a whopper. She was facing towards the back. And when she turned around, she stated,
"Can I take your order?"
Oh, Chrissy, let's once again. I dashed to my pad. The phone started ringing, but luckily my answering machine was on. And with the quickness,
sorry you can't get through.
Yeah, saved by the ha ha ha. I went and took a shower. Oh my. She was screaming, who could it be? What did she want from me? What did she want from me?
What did she want from me?
De la soul. Not over till the fat lady plays the demo. Extrait de l'album De la soul is dead. C'est en 1991.
I can't be a lover.
Vous écoutez Radio FMR. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous interviewons David Rousset, évangéliste logiciel chez Microsoft. David, est-ce qu'il y a un club des évangélistes logiciels où vous parlez entre vous, indépendamment de votre employeur techno, un coin sombre où vous faites des cocktails, ce genre de choses?
Le club des reptiliens évangélistes?
Ouais.
Il se trouve que moi, j'étais... On se rencontre fréquemment dans les conférences ou dans les dîners orateurs, par exemple, tu vois, la veille ou même pendant la conférence. Et il y en a certains avec qui ça matche très bien parce qu'on a la même approche. Et typiquement, bah ouais, je vais souvent voir un copain chez Google pour qui est évangéliste autour des web, du web. Chez Mozilla aussi, j'en connaissais un bien, mais il a quitté récemment Mozilla, mais c'est pas grave, j'ai continué de discuter avec lui, qui est Jérémy. Mais du coup, je connais d'autres gens chez Mozilla. Et en fait, je pense qu'on a un respect mutuel pour ce qu'on fait et qu'en dehors de nos boîtes, bah, on aime les mêmes choses, en fait. Tu vois, il y a un moment donné, on fait un peu tomber les masques. Alors, il y en a certains, il faut se faire un peu attention parce qu'il y en a, ils jouent pas totalement le jeu. Mais on a un club où on discute et voir, bah, tiens, comment ça se passe chez toi? Quels sont justement tes objectifs? Est-ce que tu as un budget pour les confs? Comment ça se passe si on veut faire une conf chez vous? Et typiquement, bah, là, on a eu cette discussion entre Mozilla, Google et Microsoft avec moi, en fait, pour faire des confs qu'on appelait Cross Browser, qu'on a fait tous ensemble. Et moi, je pouvais pas héberger chez moi. J'ai dit, putain, je suis désolé, les gars, mais j'ai pas le budget. Donc, le mec de Google et de Mozilla, il me dit, bah, c'est pas grave, nous, on peut le faire. Donc, voilà, on fait des confs ensemble. Donc, il y a un petit club, effectivement, d'évangélistes que tu as soit dans ta propre entreprise, c'est qu'on a des réunions entre nous bah, pour partager un peu les best practices. Ça peut être de comment bah, mieux prendre la parole en public ou les outils pour mieux présenter ou les dernières techno des confs entre nous ou des retours terrain de n'allez surtout pas dans telle communauté, vous allez revenir brûler, tu vois. Mais ouais, je pense qu'il y a un petit club, mais qui est le même en fait aussi de certains qui sont évangélistes sans en avoir le titre. C'est-à-dire que des gens chez Mozilla qui sont fans des standards et qui vont soit écrire, tu vois, dans la doc MDN, soit faire des tutoriaux, soit prendre la parole dans des conférences, ils ont ce rôle d'évangéliste, en fait. Hein. On en a chez Microsoft aussi, hein, qui le font quelque part gratuitement pour nous, parce qu'ils sont passionnés par la marque et nos produits. Et donc, bah, ça nous arrive aussi de les faire rentrer dans notre cercle pour partager le job, parce qu'il y en a, ils n'aiment pas du tout faire ça, mais il y en a, ils aiment ça et on partage ensemble le côté cool du job. Ouais.
Tu parles de Jérémy Patonnier chez Mozilla Europe. Quel évangéliste logiciel admires-tu et qui n'est pas chez Microsoft?
Qui n'est pas chez Microsoft? J'aimais bien certains de chez Mozilla. Je me souviens de Paul Rouget. Il m'avait impressionné à l'époque.
Ouais, je le surnommais que de Renard Agile tellement qu'il était impressionnant.
Ouais, ouais, mais il m'avait marqué à l'époque. Donc je me suis inspiré de plusieurs évangélistes comme ça, parce que pour devenir toi-même évangéliste, il faut que tu trouves un peu ta marque, ton style, et donc tu regardes, il y en a certains que tu admires. Donc il y en a chez Google, il y en a un, je suis très mauvais pour me souvenir des noms, je crois que c'est Adi. Il est toujours super smart, il a une espèce de cravate, il est toujours super beau gosse, donc il s'occupe d'évangéliser Chrome. Je me souviens plus de son nom, mais c'est un des évangélistes les plus connus. Il y a Paul Irish qui est très connu aussi, et puis des évangélistes aussi qui sont chez Google à Londres, celui qui a bossé notamment sur Service Worker. Je l'avais vu faire une presse justement à Paris Web à l'époque où on n'avait que l'API offline, API qui était toute pourrie. Et il l'avait démonté pendant 50 minutes, c'était génial. Et après, il a en plus participé à créer l'aspect de Service Worker pour résoudre le problème. C'est-à-dire que non seulement il a fait le rôle du troll, tu vois, pour sensibiliser les gens, mais ensuite il a bossé dessus. Donc c'est des gens que... pas mal de gens que j'admire. Alors, il y en a beaucoup chez Google, hein, parce qu'ils ont une armée d'évangélistes. Oui. Donc, forcément. Il y en a chez Mozilla aussi. Bah, Jérémy, j'ai toujours bien aimé la façon dont il faisait aussi ses prêches. Et chez Apple, bon, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup des évangélistes. On les croise rarement. Donc, j'ai jamais eu l'occasion de voir s'ils étaient bons ou pas, mais je n'en doute pas.
La culture du secret. Il n'y a que le patron qui va sur scène. Chris Hellman, programme manager open source chez Microsoft, faisait remarquer dans le bulletin de septembre édité par le Crédit Suisse qu'il y a actuellement 7 postes ouverts pour les évangélistes logiciels à Berlin, alors qu'à San Francisco, ils ont recruté 76. Le métier est-il mal vu en Europe ?
C'est pas qu'il est mal vu, c'est que les entreprises américaines, enfin les fameux GAFAM, hein, ils sont basés aux États-Unis, hein, et assez étonnamment, ils ont la culture de vouloir tout d'avoir proche de l'engineering, de la maison mère, quoi, du vaisseau mère. Il faut vraiment être proche du vaisseau mère, quoi. Et il y a des rôles où ils préfèrent les avoir vraiment attachés aux États-Unis, quitte à les faire voyager beaucoup après dans le monde. Moi, en fait, pendant longtemps, ils ont voulu m'embaucher aux États-Unis et je voulais pas à cause de mon fils, justement, parce que moi, c'est pas possible d'aller aux États-Unis pour mon fils. Ils ont fini par m'embaucher à distance, mais ça les saoule quand même pas mal souvent, hein, d'avoir quelqu'un en Europe en remote. Et par contre, ça les saoule moins quand ils se disent, bah là, typiquement, mon chef m'a demandé d'aller à RH, d'aller en Ukraine faire une conf à sa place. Ils disent finalement, c'est vrai que c'est la France et l'Ukraine, c'est vachement plus proche que la côte ouest de l'Ukraine et c'est pas mal d'avoir un mec en Europe, quoi. Mais ils veulent vraiment avoir les gens près d'eux. Donc, c'est pas que c'est mal vu, c'est qu'il faut... Je parle de Microsoft, je pense que les autres entreprises auront les mêmes soucis, mais en Microsoft, les filiales, par exemple, dans les autres pays, sont des filiales commerciales. Donc, c'est des gens qui sont là pour... fut un temps poussé de la boîte Windows ou Office. Aujourd'hui, c'est de vendre nos solutions de cloud Azure. Mais si tu veux un évangéliste, on a du mal à savoir trop quoi faire de lui et pourquoi on paierait un mec comme ça qui n'a pas vraiment d'impact direct sur le revenu. Donc, c'est pour ça aussi que c'est plus simple souvent de les rattacher à Corp, qui, elle, comprend tout à fait l'intérêt, plutôt que de le détacher sur une des filiales. Donc, c'est différents problèmes. C'est très bien vu, les évangélistes en Europe. Alors, le terme évangéliste, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, va disparaître petit à petit.
Ouais, Tristan Nito avait fait un très bon billet là-dessus, justement.
Ah, Tristan, ça fait partie des évangélistes que j'ai admirés, même s'il était très anti-Microsoft et que je prenais cher à chaque fois. Mais
il expliquait bien le côté connoté du terme qu'il gênait énormément et qu'il mettait mal à l'aise vis-à-vis de ses interlocuteurs.
Ouais, mais moi, je comprends aussi. Il était assez bien fait dans le sens, pour les Américains, c'était vraiment... pousser la bonne parole de l'entreprise vers l'audience, tu vois, vers la masse. Et en fait, on a changé, Google est le premier, je crois, à l'avoir fait, à transformer les termes évangéliste par advocate, donc développeur advocate, parce que moi, j'étais développeur évangéliste. Et du coup, la relation était différente. C'est que dans la tête des gens évangélistes, outre le côté connoté religieux, en plus, ça faisait marrer. Moi je suis profondément athée, donc c'était un peu bizarre. Mais c'était comme si on poussait un message vers les gens. Donc, c'est un peu, les gens subissent notre message, tu vois, avec le côté évangéliste. Donc, c'était pas super non plus en termes de perception. Développeur advocate, en fait, Google l'a vendu de manière super maligne en disant, ils sont là pour représenter les développeurs auprès de la marque, tu vois. Donc, c'est plutôt une inversion de sens. Et c'est pour ça, d'ailleurs, nous aussi, maintenant, on a des cloud developer advocate, parce que ça passe mieux le mot advocate qu'évangéliste. Et en plus, le sens du rôle est meilleur. Et dans les faits, du coup, ça influence aussi la façon dont on travaille.
À ma connaissance, dans l'espace francophone, il n'y a aucune évangéliste logicielle femme. Et contrairement au monde anglo-saxon, où il y en a quelques-unes quand même.
Tu crois ? Parce que nous, on en a eu chez nous, on en a eu deux. On a eu Stéphanie Hartrich, qui a toujours le rôle d'évangéliste, mais elle ne fait plus vraiment d'évangélisation large bande. Elle est plutôt engagée aujourd'hui sur les startups. Et on a eu Julie Knib, qui a été chez Deezer, qui a fondé sa startup. Et on a eu des évangélistes. Globalement, c'est difficile d'avoir des filles, parce que c'est difficile d'avoir des filles déjà tout court dans le développement, malheureusement, puisqu'il y a toujours ce problème de sensibilisation des filles et de formation dans les écoles d'ingé, etc. On a un déficit de filles, donc par effet d'entonnoir, t'en as pas beaucoup non plus disponibles pour être développeur et évangéliste. Parce que ce qu'on demande pour être développeur évangéliste ou advocate, c'est certes savoir coder, mais aussi bien présenter sur scène, quoi. Donc, on essaye des fois de... Nous, on a la discrimination positive chez Microsoft. Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est un autre débat, mais une fille qui a quasiment le même niveau ou le même niveau qu'un mec va être forcément boostée pour qu'on puisse essayer de résoudre ça. Parce que nous, c'est important qu'en tant qu'entreprise aussi, si on n'a que des mecs dans notre équipe, quelque part, on échoue dans notre mission d'engagement de notre communauté, puisque notre communauté n'est pas faite que de mecs, tu vois. Donc, c'est important d'avoir aussi des filles. Dans l'idéal, il faudrait aussi des personnes handicapées, parce que bon, je milite pour ça aussi. C'est plus difficile.
Oui.
Je leur dis, une personne en fauteuil, elle peut très bien être évangéliste sans forcément monter sur scène, parce qu'il y a peu de scènes accessibles souvent en France, mais au moins écrire des articles ou faire des vidéos ou faire des podcasts. Enfin, il y a plein de trucs que tu peux faire. Et puis, il y a différents types de handicap. Mais c'est vrai que les filles, je sais pas si tu crois que les pays anglo-saxons non plus, je sais pas. Je crois que c'est global, malheureusement, le problème.
Possible. J'ai mal analysé sur les métriques, je le reconnais. Est-ce que pour retenir l'attention du public, est-ce qu'il faut surjouer ou avoir une tenue excentrique? Dit le mec qui se présente en tri.
surjouer, je suis pas sûr, parce que les gens, ils aiment pas ça, ils le voient. Tenue excentrique, c'est... moi, ça m'est arrivé de jouer là-dessus, je suis fan de Star Wars, donc à venir avec un t-shirt, de marquer les esprits, ça fait partie de... Tu montes sur scène, donc même si c'est pas une scène de théâtre, il y a des codes un peu proches, il faut que les gens ils se souviennent de toi, donc il faut pas hésiter à avoir des petits signes pour te différencier, en fait, pour pas que tu ressembles à que ce soit un copier-coller du présentateur précédent. Donc moi, ça m'arrive de cultiver le style des t-shirts geek un peu cool, de pas hésiter à mettre un t-shirt Firefox, par exemple, où les mecs, tu vois, ils vont se souvenir de mais qu'est-ce qu'il fout le mec de MS, il a son t-shirt Firefox. Enfin, tu vois, ça me fait marrer. Et ça marque les gens, donc il faut avoir un petit côté excentrique. De toute façon, pour monter sur scène et faire ça, il ne faut pas être tout à fait bien dans sa tête non plus, quoi.
Et puis, comment tu fais pour garder la pêche, manière Steve Jobs, Steve Ballmer, dans l'enthousiasme.
Développeurs. moi, c'est pour des raisons personnelles principalement. On a rapidement évoqué l'histoire de mon fils. Mon fils, il n'aura jamais cette chance de faire ce genre de choses. La vie pour mon fils, elle est pas toujours super simple, tu vois. Enfin, la vie que j'ai avec lui, je me dis, j'ai une chance extraordinaire. Je me trouve devant des gens qui font le même métier que moi, qui ont la même passion que moi. Je suis super content, en fait, d'être là. Je mesure la chance que j'ai d'être là. Donc, j'ai envie de transmettre ma passion. Je suis un passionné comme beaucoup de gens dans ce domaine-là. Donc, j'ai envie que ça se ressente et que les gens y ressortent de la session en ayant appris des trucs qui sont cool et qui leur donnent envie de creuser le sujet, quoi. Donc, c'est sûr que si tu as deux tensions, même si tu présentes un truc super cool, les gens, ils vont penser que c'est une techno qui a deux tensions, quoi.
On dit qu'un évangéliste logiciel a deux valises. Une pour son PC et sa brosse à dents et un gros carton de goodies. Alors, les t-shirts, les stickers, les tours de cou, les porte-clés, est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu trop loin dans la gadgeterie de Nords par moment?
Ouais, mais les développeurs sont des crevards, hein. Faut dire si. C'est un truc de fou. Nous, pendant les stands, il y a des mecs qui se pointent, franchement, ils nous regardent pas, ils nous disent pas bonjour, ils nous klepto des clés USB, des machins. J'ai dit, mais il y a un moment donné, il faut se respecter un minimum. Moi, je suis aussi fan des goodies et de toutes les conneries autour de l'univers de l'informatique, tu vois. Là, la dernière fois, j'étais quémandé des trucs GitHub avant qu'on les rachète, tu vois, des trucs, des stickers, ils étaient super cool. Et je me suis dit, je vais aller discuter avec le mec de GitHub avant de lui piquer ses goodies, tu vois. Donc, un minimum de respect pour le gars, tu vois. Donc, et effectivement, ça marche toujours autant, hein. Si tu veux attirer des mecs sur ton stand, les mecs de New Marketing comprennent pas grand chose sur notre audience développeur, mais ils ont compris qu'on était fan des stickers, de trucs à la con, d'une lampe où il y a écrit n'importe quoi dessus. Même les trucs Edge, je me disais, mais les trucs Edge, les gens, ils vont nous cracher la figure parce qu'ils s'en foutent. Non, ils adorent les trucs Edge aussi. Il y en a, ils venaient se battre pour récupérer des t-shirts Edge. Donc, je suis d'accord avec toi que, on va trop loin. Mais manifestement, il y a une forte appétence pour ces trucs-là auprès des gens, quoi. Donc, bah, si les gens sont heureux avec des goodies à la con, why not, hein. Je suis pas convaincu de l'intérêt de l'évangélisation, de transformer la perception des gens, mais pourquoi pas.
On a parlé justement des hackathons qui se déroulent en général le week-end. D'autres événements qui ont lieu le week-end, ben c'est la plupart des grosses conférences. C'est le cas puisque nous enregistrons le 2 octobre ce week-end, donc il y a Paris Web. Et du coup, quid des week-ends en famille?
Alors ça fut longtemps un gros problème. Et y a des gens, bah, comme Chris Hellman, justement, qui faisait partie de mon équipe. J'étais plusieurs fois dans son équipe, il y a eu des réorganisations, mais enfin, peu importe. Et justement, il y parlait une fois sur son article de blog, presque pas comme un déprimé, mais genre... c'est pas une vie toujours rose parce que t'es tout le temps loin de chez toi. Alors c'est cool, au début les gens ils disent oh, c'est cool, t'es tout le temps en déplacement dans les avions, sauf que tu vas dans des villes, tu visites pas vraiment la ville parce que t'es dans la conférence et t'es loin de chez toi, quoi. Donc c'est vrai que c'est un métier où il faut avoir un cadre de famille qui est très costaud. Il faut que en contrepartie, tu vas peut-être faire une conf le week-end, mais moi, en tout cas, je suis assez libre pour le lundi ou le mardi d'après rester à la maison et faire une journée plus cool, tu vois, pour être près de la famille si j'ai envie de le faire. Donc, c'est plutôt à toi de faire attention à ça, parce que si tu te laisses embarquer par toutes les demandes, justement, de la communauté ou de ton entreprise, et tu peux faire un meet-up tous les soirs et une conférence tous les week-ends. Donc,
Ouais, et là, c'est burn-out garanti.
C'est burn-out, ouais.
C'est moi, c'est pour ça garanti.
Et moi, j'essaie d'éviter du coup de trop faire de conf. À un moment donné, j'en ai trop fait et tu t'essouffles parce que tu en as marre de répéter la même chose. C'est un sujet que tu as creusé depuis longtemps. À un moment donné, il faut faire des pauses. D'ailleurs, j'invite à n'importe qui fait des confs, à un moment donné, pas hésiter à dire pendant un an, je fais plus de conf. Tu creuses, tu codes, tu fais des trucs, tu te mets dans une grotte en mode geek comme on sait bien faire. Tu apprends un nouveau truc. Et une fois que tu dis ça, c'est cool, j'ai vraiment envie d'en parler, bah, t'essayes de proposer des conférences pour proposer le sujet ou d'aller dans des meet-ups. Parce que sinon, c'est comme tout, hein, si t'en fais trop, ça te saoule.
Avant de se quitter, les prochaines dates de ta tournée, j'ai cru comprendre que après l'Olympia, t'as prévu un Zénith.
Alors, je vais chez Paris Web faire une conf sur l'informatique quantique. C'est pas du tout mon métier principal, mais je suis passionné par ça. Et à nouveau, j'ai beaucoup d'espoir dans la technologie pour les analyses génétiques, en fait, pour mon fils. Ensuite, j'ai une conf en Ukraine où je vais parler de Progressive Web App, forcément. Et je vais à Microsoft Experience où je serai peut-être en keynote. Donc, c'est là où on a 4 000 personnes. Ouais. Et donc, j'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai bien aimé, mais je ne fais pas le blasé, mais c'est énormément de préparation pour très peu de présence sur scène et beaucoup de stress. Donc, c'est pas ce que je préfère, les keynotes. Hein. Je préfère largement une session avec un public plus restreint où il y a plus d'échanges et où tu peux vraiment développer un sujet qu'un keynote. Et puis, j'en ai d'autres. Je te dis, jusqu'à juin 2019, j'hallucine. C'est la première fois que j'ai des confs si loin, mais sur Babylone.
Et c'est un peu logique que tu aimes pas trop les keynotes et que tu préfères les PowerPoint chez Microsoft. David Rousset, merci beaucoup.
Bien joué. Avec grand plaisir. J'espère te recroiser bientôt dans une conf.
C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Pour cette release, l'équipe était composée de Daskritch, Chief Speaker Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, des extraits et ses sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager. C'est là pour ça, en licence libre. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est midi, nous cédons la scène à l'impromptu cultivé où Monique Blanquet va nous démontrer les capacités formidables de la techno d'improvisation dans le théâtre et... Non, c'est pas le sujet de ta con. Ok, d'accord. Désolé. Monique Blanquet.